Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais remercier la Société québécoise de droit international et les organisateurs de cette conférence de me donner l'occasion, juste 3 mois après mon arrivée au Québec, de présenter la qualification de la situation en Syrie et ses conséquences sur la protection des personnes dans le cadre de cette conférence, la conférence Katia Boustany. Alors, au contraire de certaines personnes ici, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer personnellement Katia, mais évidemment, je la connaissais, elle ne me connaissait pas, et puis je la connais encore aujourd'hui au travers d'autres personnes qui l'ont bien connue et qui m'ont eux aussi témoigné son engagement, notamment envers le droit international humanitaire. Donc je suis particulièrement honorée aujourd'hui de participer à cette conférence. Et ensuite, pour introduire mon propos, et au-delà de la petite plaisanterie genevoise sur les études en relations internationales au HEI ou en droit à l'Université de Genève, c'est une très bonne introduction, puisque après les propos très intéressants de Samy, moi je vais vous parler de la situation au regard du droit international, et vous allez voir que c'est beaucoup plus aride que ce qu'on vient d'entendre. Peut-être mon objectif à la fin de ma communication de 20 minutes, c'est que personne n'ait quitté la salle, ou que la moitié de la salle en tout cas ne soit pas déjà endormie.
On a vu les portes.
Ah, très bien. D'autant plus que ici, je vais vous parler de la situation en Syrie au regard du droit international humanitaire et non pas au regard notamment du droit au recours à la force que vous avez mentionné, qu'on appelle le jus ad bellum. Ici, je me concentrerai uniquement sur le droit international humanitaire. Donc, comme le droit international humanitaire n'est pas le droit de l'assistance humanitaire ou le droit de l'action humanitaire, et que ça va toucher à des questions assez complexes, vous allez voir qu'on est en plein dans des droits très arides, malgré la situation qui pose des questions fascinantes dans d'autres matières. Alors après 2 années d'affrontements armés, la situation en Syrie continue d'être extrêmement préoccupante. En témoigne hier l'appel lancé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies par diverses agences humanitaires des Nations Unies qui témoignent du fait qu'elles ne sont plus capables d'agir en Syrie et qu'il faut trouver une issue à la situation. La qualification de la situation, elle, au regard du droit international humanitaire et les enjeux de la qualification sont un peu dépassés aujourd'hui, puisqu'il est à peu près incontestable qu'on est dans une situation de conflit armé, aujourd'hui en Syrie, au terme du droit international humanitaire. Mais il est toujours intéressant de continuer de regarder cette situation depuis qu'elle évolue, depuis 2011, depuis 2 années maintenant, parce qu'elle vient tester beaucoup d'aspects de la qualification en droit international humanitaire et elle vient mettre au défi le droit international humanitaire sur certains aspects. D'abord sur la difficulté de déterminer le droit applicable pendant qu'une situation se déroule. On va voir que jusqu'à un certain moment en Syrie, il a été difficile de dire si on était en présence d'un conflit armé dans l'international alors que les événements se déroulent. Souvent, une juridiction pénale internationale dotée de moyens d'enquête va pouvoir établir a posteriori quelle était la qualification de la situation. C'est très utile. Mais c'est aussi très utile de savoir, pendant que la situation se déroule, à quel régime juridique elle répond. Et ça parce que, deuxièmement, il y a des enjeux dans cette qualification, et on peut le voir au travers de 2 aspects particuliers, notamment ce qui a trait à l'accès de l'assistance humanitaire, et aussi à l'usage de la force dans la situation. Selon qu'on est dans une situation de conflit armé ou pas, l'accès de l'assistance humanitaire et l'usage de la force sont radicalement différents. Et on verra pourquoi ces enjeux sont intéressants en regard de la qualification. Et enfin, la situation en Syrie continue de présenter un intérêt parce que, jusqu'à tout récemment, certains agissements ou certaines déclarations montrent que la qualification peut changer en Syrie et avec elle, le droit applicable. Alors, pour ce qui concerne le premier point, qui est la difficulté de qualifier une situation pendant qu'elle se déroule, il faut revenir un petit peu sur les faits tels qu'ils se sont déroulés depuis le printemps 2011. Comme vous l'avez rappelé, le point de départ des événements, ce sont des graffitis apposés par des enfants sur leur école, des graffitis anti-gouvernementaux. Ces enfants vont être arrêtés, certains d'entre eux vont être torturés, certains vont mourir, et donc des manifestations vont se produire à Deraa. Et à l'occasion de ces manifestations, le gouvernement envoie l'armée pour réprimer ces manifestations de façon très violente. Et à partir de là, la violence va s'amplifier et va se déployer et se propager au-delà de Deraa. Alors le 25 avril 2011, c'est la première opération militaire menée à grande échelle à Deraa par les forces armées gouvernementales. Donc le 25 avril 2011, il y a presque 2 ans, jour pour jour, on estimait déjà que 11 000 civils avaient été tués dans le contexte syrien. Et puis, les autorités syriennes, chaque fois que des manifestations se produisaient, allaient utiliser la violence de plus en plus radicalement, disons. Et puis, en août 2011, face à cette situation, va se constituer l'armée syrienne libre, donc un groupe d'opposition constitué en particulier de déserteurs de l'armée syrienne, dont des hauts gradés, et puis des opposants qui vont s'armer pour ne plus simplement manifester contre le pouvoir, mais prendre les armes et constituer un groupe armé. Les affrontements vont se poursuivre jusqu'en novembre, et en novembre 2011, on a un déploiement là véritablement massif de l'armée syrienne, et on va avoir de nombreux morts. En 3 semaines, il y a 260 civils qui sont tués, et les attaques offensives comme défensives par les forces armées gouvernementales et par l'armée syrienne libre vont s'intensifier, et elles vont se poursuivre en janvier et en février 2012, qui sont des mois extrêmement meurtriers dans la situation syrienne, où on voit que des villes font l'objet de pilonnages intensifs en particulier. La situation a continué de se détériorer pendant le printemps 2012 jusqu'au 25 mai. Le 25 mai, c'est la date à laquelle on voit le massacre de la ville d'Oula, où des milices pro-gouvernementales vont aller attaquer et tuer des centaines de civils dans la région. Et à partir de cette date, donc à partir de mai 2012, le pays connaît une véritable escalade de la violence, qui continue jusqu'à aujourd'hui et dont on peut penser qu'elle va continuer de s'accroître si c'est possible. Alors voilà les faits tels qu'on peut les décrire dans la situation syrienne jusqu'à aujourd'hui. Au regard de l'applicabilité du droit international humanitaire, la question qui se pose, c'est celle de savoir si le droit international humanitaire est applicable dans la situation et si oui, à partir de quand. Pour déterminer si le droit international humanitaire est applicable, on a 2 critères qui vont permettre de distinguer une situation de violence d'une situation qui répond à la qualification de conflit armé non international. Ces 2 critères, ce sont l'intensité de la violence et l'organisation des groupes armés qui luttent contre les gouvernements. Alors la jurisprudence internationale a examiné ces critères dans le détail, elle a eu l'occasion de le faire à de nombreuses reprises, et aujourd'hui on a un certain nombre d'indicateurs sous chacun de ces critères qui permettent de vérifier pendant que la situation se déroule si effectivement on est en présence d'une violence suffisamment intense et d'un groupe suffisamment organisé pour pouvoir parler d'un conflit armé non international. Alors si je les liste rapidement, pour ce qui concerne l'intensité, on peut examiner la nature des armes employées, les techniques militaires, par exemple le siège de ville va être un élément qui va conforter l'idée qu'on est dans une situation qui a atteint le niveau d'intensité d'un conflit armé non international. L'ampleur des destructions également va permettre de témoigner de l'intensité de la violence, l'augmentation des affrontements. Et puis 2 éléments qui sont externes mais qui sont extrêmement importants, c'est la réaction des États, et dans la situation syrienne c'est une notion importante, comment les États tiers se positionnent vis-à-vis de la situation de violence et éventuellement comment se positionne l'Organisation des Nations Unies. 2e élément, elle a trait à l'usage de la force par les autorités gouvernementales. Comment les autorités gouvernementales réagissent face à la situation de violence à laquelle elles sont confrontées. Est-ce qu'elles envoient l'armée pour mener des opérations de police ou est-ce qu'elles envoient l'armée pour mener véritablement des opérations militaires? Ça va témoigner de l'intensité du conflit. Pour ce qui est de l'organisation du groupe armé, il va falloir vérifier que le groupe armé a bien à sa tête un commandement responsable, qu'il est capable de mener des opérations militaires continues et concertées, qu'il jouit d'une certaine logistique, qu'il y a une discipline à l'intérieur du groupe et, autre élément important, en particulier au regard de la situation syrienne, sa capacité à parler d'une seule voix fait partie des éléments qui vont permettre de dire si le groupe est suffisamment organisé et donc si véritablement on a un groupe armé en face de l'autorité gouvernementale et pas simplement des manifestants qui va permettre de qualifier la situation de conflit armé dans l'international. Alors si on ramène ces critères tels qu'ils ont été établis à la situation en Syrie, on peut voir qu'au travers des nombreux rapports qui ont été émis par différentes autorités, ces critères ont été utilisés de façon assez différente et parfois de façon un peu curieuse. D'abord, en novembre 2011, donc quelques mois après que la violence ait éclaté, Et alors, comme je vous l'ai mentionné, que l'intensité de la violence était déjà caractérisée, la commission d'enquête des Nations Unies, créée par le Conseil des droits de l'homme à Genève, a estimé que le niveau d'intensité requis pour la qualification de conflit armé non international n'était pas atteint. Autrement dit, pour les Nations Unies, en novembre 2011, la situation en Syrie ne répondait pas à une situation couverte par le droit international humanitaire. Ça n'était pas une situation de conflit armé non international. Le 22 février suivant, cette même commission va dire que cette fois le niveau d'intensité de violence est atteint et que donc éventuellement on pourrait parler d'une situation de conflit armé non international, mais elle va dire qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier que l'opposition syrienne, l'armée syrienne libre en particulier, était constituée en groupe armé et suffisamment organisée pour qu'on puisse parler d'un conflit armé non international et que donc on puisse appliquer le droit international humanitaire dans la situation. Dans le même temps, il y a deux organisations qui vont également se prononcer. Human Rights Watch, dans un premier temps, qui va parler de crimes de guerre, à Idlib en particulier, et ça dès la fin du mois de mars 2012. Si on parle de crimes de guerre, on parle nécessairement d'un conflit armé, puisque pour que des crimes de guerre puissent être commis, le préalable nécessaire, c'est d'avoir pu constater qu'existait un conflit armé, et en l'occurrence un conflit armé non international. Une autre institution se prononce, le 8 mai 2012, au travers de la voix de son président, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, et qui va estimer qu'il y a un conflit armé en Syrie dans certaines zones. Qualification assez curieuse, on constate un conflit armé non international en Syrie, mais dans certaines zones seulement. Alors, cette qualification curieuse s'explique, à mon avis, par les deux aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est la volonté d'accéder au territoire pour délivrer l'assistance humanitaire sans provoquer une escalade de la violence, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors si aujourd'hui il est à peu près incontestable que l'armée syrienne libre est suffisamment organisée pour considérer qu'on est bien en présence d'un conflit armé non international, et je ne parle même pas du niveau d'intensité de la violence, puisque là il y a peu de preuves à rapporter pour montrer que les violences en Syrie sont extrêmement intenses depuis plusieurs mois et qu'elles continuent, la question qui se pose c'est le point tournant, le moment précis à partir duquel on peut constater que cette situation est couverte par le droit international humanitaire et que donc on est en présence d'un conflit armé non international. Et là, lorsqu'on est en présence de la situation, et non pas qu'on regarde la situation a posteriori, c'est très difficile, en août 2011, quand l'armée syrienne libre se constitue, de dire, alors est-ce que maintenant, du fait de la constitution de ce groupe armé, on est en présence d'un conflit armé non international? Combien de temps on doit encore attendre de voir les affrontements augmenter? Combien de morts il va falloir attendre de pouvoir constater pour pouvoir dire que le droit international humanitaire s'applique, avec les enjeux qu'on connaît, c'est-à-dire les règles applicables dans les conflits armés? Alors, à mon sens, pour conclure sur la situation en Syrie, lorsqu'on regarde la situation, on voit que les armes employées tant par les insurgés que par les forces gouvernementales, que l'armée est capable de reprendre le contrôle de certaines zones, qu'on a un très grand nombre de victimes, qu'on a une fuite massive de personnes soit à l'intérieur du pays, soit même à l'extérieur de la Syrie dans les pays limitrophes. On voit que les Nations Unies, même de façon infructueuse, se sont penchées sur la question. Souvenez-vous que Kofi Annan est allé sur le terrain et a essayé de proposer un cessez-le-feu en 6 points qui n'a jamais été mis en œuvre, mais quand même une attention de la communauté internationale, au travers aussi du Conseil des droits de l'homme. Bref, tous ces éléments corroborent que la situation est atteinte, le niveau d'intensité requis pour la qualification de conflit armé non international. Le point qui fait question, c'est l'organisation de l'armée syrienne libre. Elle se constitue en août 2011. À mon avis, on ne peut pas dire que dès août 2011, l'armée syrienne libre est suffisamment organisée pour qu'elle constitue un groupe armé au sens du droit international humanitaire. En revanche, l'armée syrienne libre va s'organiser, va être capable de parler d'une seule voix, et va être capable surtout de mener des activités militaires de façon non plus sporadique, mais continue et concertée. Et on va voir qu'elle est capable surtout de mener des opérations militaires offensives et défensives. Et pour mener des opérations militaires offensives, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. Et ça révèle qu'il y a une structure de commandement au sein de l'armée syrienne libre. Il y a des ordres qui sont donnés et qui sont capables d'être exécutés. Et donc à partir de ce moment, on peut considérer que l'armée syrienne libre est suffisamment organisée. Et ce moment, on peut le constater à partir de novembre 2011. Donc voilà le point tournant dans la situation. À partir du mois de novembre 2011, on peut considérer que le droit international humanitaire s'applique dans la situation syrienne. Alors j'en viens maintenant qu'on a qualifié cette situation aux enjeux de cette qualification et pourquoi il faut connaître ce point tournant. Et je vous l'ai dit, j'aimerais l'examiner au travers de deux aspects, l'accès de l'assistance humanitaire et l'usage de la force. Alors pour ce qui est de l'usage de la force, si on est dans une situation qui est couverte uniquement par le droit international des droits de la personne, les règles qui s'appliquent sont drastiquement différentes que si on applique les règles relatives à l'usage de la force dans le contexte d'un conflit armé. Dans le contexte d'une violence, dans lequel on applique uniquement le droit international des droits de la personne, l'usage de la force doit toujours être une mesure extrême, utilisée en dernier recours et pour préserver une vie humaine. Donc l'usage de la force doit être l'exception dans une situation de violence, même lorsqu'on réprime une manifestation, lorsqu'on fait appel à des opérations de police, tant que uniquement le droit international des droits de la personne s'applique. Lorsqu'on passe sous le régime du droit international humanitaire, la tendance est complètement inversée. L'usage de la force devient le principe. Le droit international humanitaire intègre l'usage de la force létale comme un principe, comme un moyen nécessaire pour les parties en conflit d'atteindre leur but. Et à partir de ce moment-là, l'usage de la force n'est plus une exception, c'est le principe, et n'est plus une mesure extrême. Et là, quand on regarde la situation en Syrie, et qu'on voit qu'il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été réprimées, à côté de ce qui continuait de se produire avec le groupe armé d'opposition, ça va avoir une conséquence énorme vis-à-vis de la force telle qu'elle est employée par les forces armées gouvernementales vis-à-vis des manifestants. Si on est dans une situation de violence, on applique le droit international des droits de la personne uniquement, et dans ce cas-là, ça doit être une mesure extrême. Si on considère au contraire que les manifestants participent aux hostilités, il y a une participation directe aux hostilités, il y a un soutien au groupe armé, à l'opposition, à l'armée syrienne libre. Si cette participation directe aux hostilités est confirmée, alors les forces armées gouvernementales peuvent attaquer les membres, les manifestants qui soutiennent dans la situation les membres de l'opposition, le groupe armé. Et donc vous voyez que l'usage de la force à l'égard de ces personnes-là est complètement différent et donc est peut-être ensuite a posteriori aussi incriminé de façon complètement différente. C'est le premier aspect des enjeux de la qualification d'une situation au moment où elle se produit. Le deuxième aspect, c'est l'accès pour l'assistance humanitaire. Si on est dans un régime couvert uniquement par le droit international des droits de la personne, il n'y a rien sur l'assistance humanitaire. On peut déduire certaines règles du droit international des droits de la personne, le droit à la santé par exemple, ou le droit à l'alimentation, et donc on va pouvoir en déduire que les populations syriennes ont certains droits, malgré le fait qu'elles subissent une situation de violence, et qu'elles ont un droit à la santé et à l'alimentation. En revanche, il n'y a rien sur les modalités d'accès à l'assistance humanitaire. Rien n'est dit sur comment les organisations humanitaires peuvent accéder au territoire pour délivrer cette assistance humanitaire. Dès lors qu'on va considérer que la situation est couverte par le droit international humanitaire, alors là, toutes les règles relatives à l'assistance humanitaire du droit international humanitaire vont pouvoir commencer à s'appliquer. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la distinction conflit armé international, non international et les conditions d'accès à l'assistance humanitaire, mais il se trouve que depuis 2008, il y a, selon le comité international de la Croix-Rouge, une règle coutumière qui dit que, quelle que soit la nature du conflit, international ou non, les agences humanitaires impartiales doivent être autorisées à accéder au territoire. Elles doivent être autorisées à accéder au territoire. Donc dès lors qu'en novembre 2011, on constate une situation de conflit armé non international, les agences humanitaires peuvent demander à accéder au territoire et théoriquement les autorités syriennes devraient autoriser ce passage et ne pas s'y opposer. Et là, je reviens sur la qualification qu'a fait le CICR en mai 2012. Et quand on regarde les règles relatives à l'usage de la force et les règles relatives à l'assistance humanitaire, qui sont dans un cas très défavorable aux populations civiles, si on est dans un conflit armé, et dans l'autre plus favorable, puisqu'on va pouvoir se prévaloir de l'accès à l'assistance humanitaire, vous avez une institution qui veut avoir accès au territoire pour pouvoir délivrer une assistance humanitaire, mais qui ne veut pas légitimer la violence par le gouvernement à l'égard des groupes armés contre lesquels ils luttent. Et donc le CICR va dire qu'il y a un conflit armé qui affecte seulement certaines zones, les zones dans lesquelles lui veut pouvoir accéder et délivrer en priorité une aide humanitaire. Ce qui va lui permettre de dire que le DIH s'applique dans cette zone, délivrer son assistance humanitaire sans toucher aux questions d'usage de la force, puisque déjà l'usage de la violence est tel qu'on a un conflit armé à l'international, mais d'éviter que, par exemple, au sud de la Syrie, qui n'était pas affecté par les événements à ce moment-là, eh bien, on en vienne à utiliser les règles relatives à l'usage de la force en droit international humanitaire. Alors, cette qualification, qui est quand même très curieuse, elle a été corrigée en juillet 2012 par le biais de son porte-parole. Le CICR est venu dire que, oui, certaines zones étaient plus touchées par le conflit armé, mais que la situation affectait quand même l'ensemble de la Syrie. Autrement dit, lorsqu'on négocie avec le gouvernement syrien en matière d'assistance humanitaire, on négocie sur l'ensemble du territoire. Donc voilà deux des enjeux qu'on retrouve au moment même où la situation se déroule et pas simplement a posteriori quand il va s'agir d'incriminer des violations qui ont été commises. Et évidemment, a posteriori, l'enjeu, c'est de pouvoir dire que des crimes de guerre ont été commis, éventuellement en plus de crimes contre l'humanité, par exemple. La situation syrienne continue d'être intéressante aujourd'hui parce qu'elle voit, au niveau de la qualification juridique de la situation, certains événements qui viennent questionner la question, questionner la question, pas du tout, mais qui viennent interroger sur un changement possible de la qualification de la situation. Comme on l'a vu, ce serait un conflit armé non international. On a un groupe armé qui lutte contre un gouvernement. Il y a assez peu de questions qui se posent. Mais qu'en est-il dès lors que la France et le Royaume-Uni, par exemple, considèrent que l'un des moyens pour mettre un terme à la violence, ce serait d'armer les rebelles syriens? Alors il y a tout un tas de critères qui s'appliquent en droit international sur lesquels je n'insisterai pas aujourd'hui. Le fait d'armer des rebelles n'est pas suffisant pour ce qu'on appelle internationaliser la situation et dire qu'on est en présence d'un conflit armé international dans lequel on appliquerait encore plus de droit international humanitaire. Simplement, ce soutien aux rebelles syriens pose la question de savoir jusqu'où ces rebelles vont être soutenus et éventuellement jusqu'au point où on pourrait considérer que des États qui les soutiendraient pourraient être impliqués dans la situation et être eux-mêmes partis à un conflit armé international auquel on appliquerait également le droit international humanitaire. Et puis, ça interroge également sur les intentions des États dans leurs négociations pendant que les situations se déroulent, puisque au moment où la France et le Royaume-Uni estiment que armer les rebelles syriens pourrait être une bonne idée pour mettre fin au conflit, on a l'adoption du traité sur le commerce des armes légères. Royaume-Uni et France ont été des pays qui ont défendu l'adoption de ce traité, qui s'en sont félicités, et ce traité interdit pour la première fois au monde le transfert d'armes lorsqu'on sait que, notamment, des violations des conventions de Genève pourraient être commises. Il est aujourd'hui incontestable que des violations des conventions de Genève sont commises quotidiennement en Syrie, et que ce soit de la part des autorités gouvernementales ou de la part des groupes armés. Et ça, par exemple, la mission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations des Nations Unies l'a dit en février 2013. Donc des violations du droit international humanitaire sont commises, nécessairement armer les rebelles syriens permettra de perpétuer ces violations en droit international humanitaire. Voilà présenté de façon un peu aride la situation en Syrie sous l'angle du droit international humanitaire. Merci.
J'allais dire pas si aride que ça, parce qu'il n'y a personne qui a tenté de.
C'est d'autant plus.
Merci, c'est très apprécié.
Alors, on va ouvrir aux questions. On va prendre un petit quart d'heure, voir créer un peu de débat dans la salle. Moi, je pourrais profiter pour poser juste une petite question à l'introduction. J'ai l'impression qu'il y avait. Il y a toujours un peu une ambiguïté sur cette question de participation aux hostilités qui paraît très importante parce que dès lors qu'on participe aux hostilités, on devient une cible légitime. Les manifestants qui soutiennent, mettons, l'opposition syrienne, on est bien d'accord, peut-être quelque chose à clamer, mais il y a une différence entre soutenir opérationnellement et militairement et le soutien politique. Le soutien politique lui-même ne suffit pas à être une cible.
Alors pour apporter une précision à ce que tu viens de dire, qui est effectivement extrêmement important, lorsqu'on est dans une situation de conflit armé, quelle que soit sa nature, et qu'on applique le droit humanitaire, et que donc on applique de façon générale les règles relatives à l'usage de la force en droit humanitaire, donc de façon moins favorable pour les personnes qui participent aux hostilités, il n'en demeure pas moins qu'une manifestation, quelle qu'elle soit, doit être réprimée par des forces de police. Même si on est dans le cadre d'un conflit armé, et qu'on déploie l'armée pour lutter contre une manifestation, et uniquement une manifestation, c'est des moyens de police qui doivent être déployés. Et donc, selon les règles relatives à l'application de deux branches du droit international dans une situation, on va appliquer le droit international des droits de la personne, et donc ce sont les règles limitatives qu'on va appliquer dans le cadre de cette manifestation. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est quand cette manifestation va permettre aux groupes armés de mener des opérations militaires. Et là, on tombe dans les exemples qui ont été donnés dans l'étude sur la participation directe aux hostilités, qui est un exemple typique. Que fait-on lorsque des manifestants empêche l'armée gouvernementale, par exemple, de traverser un pont ou d'accéder à un endroit où sont menées des opérations militaires par le groupe armé. Est-ce que cette manifestation n'est pas aussi un soutien au groupe armé et donc est-ce qu'on ne peut pas la réprimer au titre de la participation directe aux hostilités ?
Passionnant. Alors, écoutez, nous attendons aux questions.
Daniel. Alors, deux questions d'abord. Vous avez, dans l'exposé, présenté un certain nombre d'ONG comme Human Rights Watch, CICS, une ONG tout à fait particulière, qui auraient, par un certain nombre de gestes, de déclarations, qualifié. Qui peut qualifier un conflit ? Quelle qualification a une certaine autorité ? La Syrie a-t-elle elle-même, l'État syrien a-t-elle elle-même cherché à le qualifier ? Est-ce que des États ont cherché à le faire aussi ? Est-ce que, vous avez évoqué le Conseil des droits de l'homme, son rapporteur a certainement dû dire quelque chose là-dessus. La question, en fait, c'est qui peut nous dire avec autorité qu'on est en présence d'un conflit armé dans l'international ?
Personne. Il n'y a aucune autorité en droit international humanitaire qualifiée pour dire comment on qualifie la situation. Alors souvent, on s'en remet à ce que va dire le comité international de la Croix-Rouge et en tout cas à essayer de voir comment le comité international de la Croix-Rouge se positionne. Est-ce qu'il intervient ou pas, sur quelle base ? Mais comme on voit dans le cadre de la situation en Syrie, c'est finalement très dangereux parce que le CICR a des visées opérationnelles au-delà de ses visées juridiques ou de qualification et donc va chercher à qualifier les situations en fonction de ses propres intérêts. Donc on ne peut même pas s'en remettre à ce que dirait le comité international de la Croix-Rouge. La question de la Syrie est une question très intéressante parce que s'il n'y a pas d'autorité qualifiée à dire quelle est la qualification juridique d'une situation lorsqu'elle se déroule, ni les États, ni les déclarations qu'ils font, ça n'aura pas de conséquences dans les conflits armés internationaux, par exemple. Parce que les États peuvent s'entendre dire que la violence à laquelle ils se soumettent entre eux ne répond pas à une situation de conflit armé, on pourra quand même leur opposer l'application du droit international humanitaire dans le cadre des conflits armés internationaux. Mais dans le cadre des conflits armés non internationaux, où le seul interlocuteur, c'est le gouvernement syrien, et en particulier où le seul interlocuteur pour l'accès au territoire, pour délivrer l'assistance humanitaire, c'est le gouvernement syrien, si lui dit « non, 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 il n'y a pas de conflit armé chez moi », il n'y a absolument aucune raison que je vous laisse rentrer sur mon territoire, alors on est coincé. Et donc même si en soi la Syrie n'est pas habilitée à qualifier la situation, les conséquences de son appréciation de la situation sont que eh bien, on ne va pas pouvoir appliquer le droit humanitaire dans la situation alors qu'objectivement on le devrait. De la même façon, les organes des Nations Unies ne sont pas plus qualifiés qu'un autre, même pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, et presque, j'ai envie de dire, surtout pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui certaines fois va considérer qu'une situation menace la paix et la sécurité internationale, d'autres fois pas. Certaines fois va prendre des mesures coercitives, d'autres fois pas, dans des situations pour lesquelles, objectivement, lorsqu'on regarde les critères et les indicateurs, on peut considérer qu'on a ou pas un conflit armé non international. Donc le seul élément qui peut faire autorité pour la qualification des conflits armés, c'est le regard a posteriori par les juridictions pénales internationales. Et c'est la seule autorité que ça va avoir parce que à ce moment-là, on va avoir le point précis à partir duquel on parle d'un conflit armé, et donc le point précis à partir duquel on applique le DIH, et donc le point précis à partir duquel on a des crimes de guerre qui sont commis dans la situation, et a posteriori, est-ce qu'on va poursuivre les personnes qui ont commis des violations pour crimes de guerre ou pas. Et juste pour terminer sur ce petit aspect, parce que c'est aussi fascinant au regard de la justice pénale internationale, la question de savoir qui qualifie, parce que en droit pénal, pour commettre une infraction, il faut avoir conscience qu'au moment où on commet l'infraction, on se situe, que c'est un fait qui est incriminé. Or, pour avoir un crime de guerre, il faut avoir conscience de commettre son acte dans le cadre d'un conflit armé. Si on parle des conflits armés non internationaux et qu'on voit à partir de quand on essaie de déterminer la situation, si on part de novembre 2011 et des agissements par exemple de l'armée syrienne libre, alors peut-être le 15 novembre une infraction ne répond pas à la qualification de crime de guerre parce qu'on n'est pas encore dans un conflit armé international, mais le 30, oui. Et comment une juridiction pénale internationale, a posteriori, va pouvoir poursuivre des personnes qui ont commis des violations et à partir de quel moment très précis ?